quand on enlève le masque. Surtout dans ce monde où tout est lissé et soi-disant parfait, alors qu'on vit littéralement dans un bordel inhumain. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'essaie de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre, mais ça sonne faux. Je rentre pas dans le moule, c'est tout. Alors va les masques, et rien à foutre de ce que tu peux dire, parce que maintenant je vis pour de vrai. J'ai ce cœur de cristal dans ma poitrine qui bat la chamade. J'ai cette gueule cassée qui essaie de sourire pour cacher sa tristesse. Et j'ai cette âme brisée qui fait son mieux pour vivre avec ses traumas. Alors oui, ça c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et je vais pas recommencer à faire semblant que tout est beau, non. Dans mon univers, dans mon univers. Parce que oui, qu'est-ce que tu crois, moi aussi c'est bordel dans ma tête, j'ai ma vie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance. Le cœur à vivre. Alors oui, ça c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et je vais pas recommencer à faire semblant que tout est beau, non. Dans mon univers, dans mon univers. Parce que oui, qu'est-ce que tu crois, moi aussi c'est bordel dans ma tête, j'ai ma vie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance. Le cœur à vivre. Le cœur à vivre. Et c'est pas facile tout le temps, parce que je suis de ceux qui ressentent le monde dans chaque coin de leur corps. J'ai déjà ce qui se passe dans ta tête avant même que tu me l'aies dit. Quand t'es triste, je le suis aussi. Quand t'es en colère, c'est la tempête dans mon cœur. Je suis une éponge à émotion et je commence sérieusement à fatiguer, parce que ce monde est trop malade. Alors je me sens écrasé sous le poids de ma propre existence, comme si mes ombres se reflétaient de partout. Pourtant, j'ai tout au fond de moi l'urgence d'exister. Je vais essayer tant bien que mal de répondre un peu de lumière. Celle du cœur qui murmure ce que la tête ne peut pas comprendre.
Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le podcast de Laurel. Alors, aujourd'hui, c'est le lundi 5 février 2024, exactement. Là, il est 13h51. Et ben voilà, c'est un nouveau épisode, le troisième, sur le thème, donc, des pourquoi et les comment. Mais juste avant de commencer, je vais dire de qui est la musique qu'on vient d'écouter. C'est la moindre des choses. Donc ça s'appelle « Regarde-moi » de Justin Yells. C'est un single qui vient de sortir et que je viens de découvrir aujourd'hui, il y a 2 heures, quelque chose comme ça, sur Instagram. Voilà. Et c'est pas si mal, je trouve, comme musique. Alors, ben voilà. Donc le thème, les pourquoi et les comment. Alors, je pense que... J'espère que cet épisode sera un peu moins long que les précédents, mais c'est quand même un morceau sérieux, quoi. Quelque chose d'assez sérieux, parce que c'est assez métaphysique, en fait. Enfin, en gros, je vais vous expliquer mes questionnements métaphysiques depuis un peu toujours. Et voilà. Mais... je sais pas trop, je sais jamais comment commencer, mais enfin bon, je vais suivre un peu les notes que j'ai prises avant pour me guider. Donc, en gros, quand je réfère au pourquoi, dans ma tête, ça, je réfère à tous les pourquoi que je me suis posé, que je me suis demandé depuis. Je pense, c'est des questions sous-jacentes depuis toujours, mais je pense que je me suis surtout posé ces questions dès la CM2 et au collège aussi surtout. Mais j'ai continué à me les poser tout le temps. Enfin, à peu près tout le temps. Et donc, un des premiers pourquoi, c'était pourquoi... Bon, ça, c'est un peu dramatique, mais... Pourquoi ma mère, elle me traitait comme ça? Pourquoi elle était négligente, en train de toujours même vouloir me manipuler et se servir de moi au lieu de me considérer comme un être humain, comme sa fille, hein? Au passage, je suis sa fille, hein, mais bon. Pourquoi elle se souciait pas de moi? Pourquoi elle me faisait des chantages affectifs, elle me négligeait, elle me maltraitait affectivement. Et pourquoi elle était plus en train de blesser mon identité et de chercher à en faire un objet et tout, alors que voilà quoi, c'était ma mère. Et pendant très longtemps... Je me posais la question, c'était la première question, c'est un des premiers pourquoi sérieux que je me suis posé. Et ouais, je me demandais aussi, enfin, pourquoi, comment c'est possible qu'une mère puisse faire ça à son enfant, quoi. C'est un peu dingue, quoi. Genre, d'où ça sort? Comment c'est possible, même physiologiquement, genre, le cerveau, comment le cerveau de ma mère a pu faire qu'elle me traite comme ça, genre. Ça paraît juste tellement irréel. Et bon, maintenant, ça fait longtemps et tout, et surtout que j'ai pas du tout eu de contact avec ma mère, donc ça c'est bien, mais mon cerveau il a toujours pas compris ce qui s'est passé. C'est quelque chose de vraiment irréel et de inconcevable. Et donc ça c'était un peu mon premier pourquoi, mais mon deuxième pourquoi qui a suivi aussi, bah, fin de l'adolescence, fin du collège je dirais, par là. C'était pourquoi la violence? Comment c'est possible qu'il arrive des atrocités? Par exemple, j'avais lu au collège, j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi. Et donc, c'est un livre autobiographique où Primo Levi raconte comment ça s'est passé quand il était enfermé à Auschwitz et comment il a survécu et comment il a eu de la chance parce qu'il aurait pu ne pas survivre à tout ça. Enfin, dans ce livre, dans Si c'est un homme, et Primo Levi, il explique de manière, je trouve, assez claire qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que c'est la déshumanisation, qu'est-ce que c'est de se perdre soi-même, perdre sa propre identité, perdre son propre soi. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est à ce moment-là que c'est en lisant ce livre quelque part que j'ai compris que quand j'étais chez ma mère, je m'étais, pendant la durée où j'étais chez ma mère, en particulier 5 sur mes heures, donc les 3 dernières années avant d'être sortie de chez ma mère, vers 7-8 ans, et bien, c'est en lisant ce livre, donc je crois que c'était en quatrième ou quelque chose comme ça, c'est en lisant ce livre de Primo Levi que j'ai compris que quand j'étais chez ma mère, j'étais en train de me perdre moi-même. En fait, j'étais tellement mal dans ma peau, mal dans mon corps, etc. et tout, négligée et je manquais de énormément de stimulation. Du coup, je grandissais pas quasiment. Du coup, ouais, avec le livre de Primo Levi, j'ai compris que ben, pendant ces périodes, en fait, j'étais en train de me perdre moi-même, que je m'étais perdu moi-même, et que il y avait quelque chose, même si, bon, j'ai pas été à Auschwitz et tout, finalement, même si j'ai pas été à Auschwitz et tout, j'ai compris que c'était différent. Mais dans le principe de déshumanisation, de déshumaniser quelqu'un, ben j'ai compris que c'était un peu similaire, quoi. Et quelque part, ça m'avait aidé, ce livre, de me dire ça. Mais du coup, finalement, et oui, il y a aussi un autre livre qui m'avait fait pas mal réfléchir à propos de ce sujet, la déshumanisation. Comment on peut faire, comment des personnes, des humains, font et veulent enlever la qualité d'être humain, enlever la toute considération en tant qu'être humain pour d'autres personnes, d'êtres humains. Et il y avait 1984 de George Orwell qui m'avait beaucoup parlé. Vraiment, quand j'ai lu 1984, mais je sais plus si c'était en quatrième ou en troisième, j'ai un gros doute, mais c'était vraiment la révélation. J'étais en train de me dire, en fait, ce dont George Orwell parle à une grande échelle et c'est un monde dystopique, mais qui veut critiquer quand même la réalité le monde tel que George Orwell le perçoit à cette époque, enfin à son époque. Et tout le passage sur la torture à l'intérieur, la torture mentale à l'intérieur du livre, et comment des personnes se retrouvent à volontairement déshumaniser d'autres personnes pour avoir le contrôle dessus et juste pour leur enlever leur liberté d'être. Ça m'avait beaucoup marqué. Et ça m'a fait. Enfin, voilà. Je sais pas parler comme toujours, mais ni articuler. Mais tout ça pour dire, c'est que si c'est un homme de Primo Levi et 1984 de George Orwell, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a fait me rendre compte aussi que ce que j'avais vécu avec ma mère, que j'avais très mal. La période que j'ai vécue chez ma mère, que j'ai très mal vécue. Parce que bon. Enfin, en fait, d'un côté, j'ai l'impression concrètement qu'elle m'a rien fait. Enfin, j'ai du mal à, des fois, à dire, à expliquer. Enfin, pendant longtemps, je savais pas mettre le doigt sur ce qui n'allait pas et sur ce qui était vraiment ouf et qui était vraiment horrible mais qui allait pas. Parce que il n'y avait pas de maltraitance physique, quoi. Enfin bon, oui, certes, la négligence, mal nourrir son enfant, enfin voilà, mal s'occuper de son enfant, voilà, tout ce qui est, enfin, négligence complète, hein, on va dire, il y avait le full. Oui, la négligence, c'est une maltraitance physique, mais j'ai pas pris de coups, quoi. C'était pas quelque chose que je pouvais montrer en mode, elle m'a frappé, elle m'a fait mal là, quoi. Quelque chose de difficile à expliquer et à montrer, surtout quand j'étais petite, que je conscientisais pas les choses. Du coup, quand j'étais. Ouais, bref. Ah, je me perds dans des détails, désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte, avec ces livres, que donc ce que j'avais vécu n'était pas isolé en soi. C'était pas juste moi dans mon coin qui avait une mère horrible, et puis. Enfin, une mère. Voilà, comme elle est, quoi. Et que. Malsaine, etc. Enfin, c'était pas juste moi dans mon coin, en fait. C'est à différentes échelles, déjà. Cette violence, c'est. Enfin, il y a la violence physique, il y a différents types de violence. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique. Il y a tout un tas de types de violences que je n'imagine même pas. Mais. Oui, c'est pas un cas isolé en soi. C'est plein de gens qui sont violents, qui commettent des actes violents, qui agissent violemment, et plein de gens qui subissent des violences ou qui cherchent à résister à des violences, ou qui eux-mêmes se retrouvent à reproduire sa même violence. Enfin, il y a l'échelle individuelle, il y a l'échelle familiale, il y a l'échelle d'un village, on pourrait dire, ou d'un collège par exemple, ou d'une structure, d'un groupe. Il y a l'échelle nationale, il y a tellement d'échelles où il y a de la violence qui arrive, quoi, qui est réalisée quelque part. Et mais du coup, une des questions que je me suis posée, une question, le pourquoi, c'est qui a suivi le pourquoi ma mère est comme ça, pourquoi moi, pourquoi c'est tombé sur moi, ça pouvait pas tomber, je pouvais pas avoir une vie différente, ça pouvait pas bien marcher, fonctionner comme ça aussi. Bah, c'est passé à un mot, un pourquoi la violence, c'est quoi l'origine de la violence, d'où ça vient à l'origine, quoi. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait. Enfin, j'ai appris, enfin, j'ai découvert en me renseignant et en m'intéressant un peu aux choses aussi. J'ai appris que. Il y a des violences structurelles, enfin, il y a des violences. Non, c'est pas ça le bon mot. Il y a des violences qui se reproduisent de génération en génération. Pas forcément de la même manière. Parce que. Il y a eu un traumatisme à un moment donné sur une génération. Mais, et ça va dans l'éducation, la manière de s'occuper des enfants, etc. Ça va amener un autre type de violence chez les enfants qui vont reproduire cette violence d'une manière différente, etc., etc. Par exemple, à un moment donné, il peut y avoir une population traumatisée, par exemple, avec la Première Guerre mondiale, par exemple, où il y a eu. Pourquoi j'oublie le mot, mais il y a eu des Genre, il y a eu énormément de traumas, la guerre de... la guerre de 14-18. Il y a eu autant que les personnes, les soldats qui étaient au front, qui sont revenus, des personnes, quoi. Autant que les personnes à l'arrière, etc. Il y a eu énormément de traumas créés. Tout ça pour une guerre d'intérêt. Bon, tu te dis sympa. Il y a eu énormément de traumas créés. Et après, il y a certaines personnes qui ont vécu ça, qui ont plus ou moins géré ces traumas. Mais c'est toujours du plus ou moins. C'est les choses disparaissent pas comme ça. Les traumas, ils disparaissent pas comme ça. Surtout quand si la société met un tabou dessus, quoi. Et ça peut se reproduire ensuite d'une manière différente, que ce soit une manière, que ce soit avec de la violence ou des phobies ou des peurs ou des inquiétudes ou des trucs comme ça sur les générations suivantes, mais ça se reproduit d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ce que je me disais, à un moment donné, c'est que en soi, je pouvais me dire que je pouvais expliquer la violence que ma mère avait avec moi en me disant qu'elle avait très probablement une éducation violente, d'une manière ou d'une autre, ou qui avait structuré les choses d'une manière violente, et que c'était sûrement pour ça qu'elle avait été violente avec moi, qu'elle avait pu se permettre de faire ça. Et dans sa tête, enfin, au niveau de sa conscience morale, hein, ce que je veux dire. Et je me disais que sûrement mes grands-parents, ils avaient eu aussi subi des violences d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Et en même temps, d'un côté, je me disais, ok, ça peut expliquer d'une manière rationnelle pourquoi c'est arrivé, donc ce serait pas tombé du ciel, ok. Mais en même temps, je me disais, c'est quoi l'origine, quoi? C'est quoi l'origine, la vraie origine de la violence? Parce que si tu remontes dans le temps, dans la généalogie comme ça, de plus en plus, au final, il faut bien qu'il y ait un point de départ, quoi. Mais pourquoi il y aurait eu le point de départ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une violence gratuite, une violence, enfin, pas une violence gratuite, mais une violence sans raison, sans rationalité, sans que ce soit vraiment. Mais quand je parle de violence, je parle pas juste de d'avoir envie de frapper quelqu'un parce que il nous emmerde. Je parle d'une violence intégrée dans le quotidien, quoi, dans notre quotidien, et intégrée et en mode, ça devient quelque chose qui fait partie de nous et qui fait partie de ce qu'on est, quoi, et de manière d'interagir avec les autres. Je parle de ça. Et donc je me dis, si on considère les choses comme ça, que de génération en génération, il y a des trucs qui se reproduisent, et que c'est pour ça qu'à un moment donné, une personne est violente, mais c'est quoi le point d'origine? C'est quoi la violence originelle? C'est un peu ça mon délire à un moment donné. Et j'arrivais pas à comprendre. Mais après, je pense que quand je réfléchissais à ça, cette manière-là, j'étais un peu en train d'oublier, enfin de pas avoir conscience qu'il y a des traumatismes qui se rajoutent aussi de génération en génération, qui viennent pas des anciennes générations, et qui sont juste des nouveaux traumatismes, quoi, parce que c'est pas juste une famille en soi, on est des humains interconnectés entre différentes familles, on bouge beaucoup, socialement, ça bouge. Donc, il y a plein d'influences en vrai, plein de manières d'avoir des traumas dans la vie. Ou de devenir violent pour une raison ou une autre. Enfin bref, du coup, ça me posait un peu problème. Et puis, ouais, ça expliquait pas. Je comprenais toujours pas comment c'était possible, enfin, les atrocités, que ce soit physique, que ce soit psychologique, la torture, les machins. Comment c'était possible qu'il y ait des guerres, alors que, en soi. Et. Alors qu'en soi, tout ça. Enfin, en vrai, moi, je le vois vraiment comme des violences ridicules. Des violences ridicules. Quand je dis violence ridicule, c'est pas parce que les conséquences de ces violences sont ridicules, c'est pas parce que les souffrances qui ont lieu à cause de ces violences sont ridicules, ou que les causes de cette violence sont ridicules. Ce que je dis, c'est que c'est des violences ridicules parce qu'on pourrait très bien s'en passer et ça se passerait beaucoup mieux si on ne s'il n'y avait pas ces violences. Et je parle de tout type de violence, hein. Enfin, il y a des violences structurelles aussi. Il y a les violences invisibles, il y a les violences visibles. Il y a les deux. Des violences plus complexes que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a des choses, ça me semble des violences ridicules. Parce que. C'est juste créer des violences, c'est juste créer de la souffrance pour rien, en fait. C'est pas. Enfin. Ça crée même pas une situation vraiment mieux que ce que ça a été, que ce que c'était avant. Et les intérêts que ces personnes qui sont violentes peuvent croire qu'ils accèdent à des intérêts, je sais pas, économiques, sociaux ou autres, bah finalement, dans la durée, bah, ça fonctionne pas, de toute façon. Et c'est juste artificiel en soi. Et ça fait pas se sentir bien aucunement. Hein. C'est pas vrai, quoi. Ça fait pas se sentir bien dans la réalité, quoi. Et c'est juste malade, quoi. Enfin, du coup, ouais, je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop. Bon. Je dis tout ça un peu de manière désorganisée, mais voilà. J'ai jamais compris pourquoi les gens ont été violents, quoi. Et je comprenais pas non plus pourquoi je pouvais l'être. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu en mode. Sur copie. En mode. Mais je le faisais très rarement parce que. Je me sentais mal à l'aise avec ça et c'était pas non plus moi, quoi. Mais à un moment donné, quand j'étais petite, j'étais un peu en reproduction. Dans mon esprit, mon état d'esprit, j'étais un peu en mode de reproduction de la manière d'être et de faire de ma mère. Et du coup, il y avait des moments où je pouvais me montrer quand l'autre allait pas forcément dans le sens où je voulais ou juste que j'avais le sentiment de perdre le contrôle ou de pas me sentir considérée ou quoi que ce soit. Que je me sentais pas bien. Enfin, je sais même pas expliquer. J'étais un peu en mode à être agressive verbalement pour rien, quoi. Ou à émotionnellement. Enfin, verbalement, affectivement, quoi. Je pense que ça m'est arrivé 2-3 fois, peut-être 4-5 fois, je sais pas. Enfin, pendant tout du primaire au début lycée. Puis à un moment donné, je me suis dit vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça! Je n'aime pas être comme ça. Mais à aucun moment, du coup, bon, j'ai jamais refait ça après parce que, bon, voilà. Mais c'était vraiment, c'est des événements, plus micro-événements, hyper isolés. C'est même pas comme si je suis pas une personne violente de base envers les gens. Enfin, pas trop ce que j'aime, hein. Mais le pire, c'est que même moi, sur ces mots micro-événements, quand moi-même. J'avais été violente. J'avais eu de l'agressivité, j'avais été violente et tout. Et un peu dans ce mode de vouloir contrôler les autres et être dans l'agressivité et un peu dans la manipulation et tout, alors que c'est dégueulasse. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Genre vraiment, c'était 2 minutes et puis après, j'ai passé à autre chose et je me sentais mal. Non, mais. Tout ça pour dire, c'est que même quand je peux penser à ce moment-là, ou même quand j'ai pu penser à ce moment-là, j'arrivais pas à expliquer pourquoi. J'arrivais pas à expliquer la violence des autres, j'arrivais pas à expliquer non plus ma violence à moi. Et ça, c'est dingue. Enfin, vraiment, le moment, j'arrive pas à expliquer quoi. Et à un moment donné, j'avais lu un livre trop bien. Un livre vraiment, vraiment trop bien. C'est une dinguerie. C'est un thriller policier, scientifique. Enfin, c'est peut-être un peu pseudo-scientifique. Je suis pas sûre que ce soit hyper scientifique dans la vérité, mais voilà. Ça s'appelait, il me semble bien, ça s'appelait le syndrome E de Franck Tillyès. Et c'était trop bien, vraiment. Je pense que je l'ai lu en seconde, en première, je sais plus. Et vraiment, en fait, ce livre, c'est un bon bouquin quand même. Pas trop gros, mais un bon. Et ce livre, il parlait, finalement, c'était une enquête policière qui finalement revenait un peu à chercher l'origine de la violence. Et des de la violence atroce, quoi, des violences extrêmes. Et c'était. Et violence physique, hein, violence physique extrême, atroce. Et c'était hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'avait énormément plu. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, et c'est un peu un livre qui m'avait fait. Qui m'avait redonné un peu d'espoir en me disant, ouais, on peut trouver le pourquoi des violences. C'est possible, même si ça c'était de la fiction, c'est possible dans la réalité. Mais finalement. Finalement, ben voilà, c'est resté en suspens. C'est. Enfin, vraiment, je me suis posé, c'est pourquoi? Pourquoi la violence? Pourquoi. Enfin, tout ce que je vous ai dit de pourquoi, je les ai gardés pendant. Quasiment jusqu'à maintenant. À me poser la question une fois tous les 3 mois, hein, ou des fois une fois pendant tout un mois. Et finalement, ben, je me suis retrouvée sans m'en rendre compte, je pense qu'il y a un mois, quelque chose comme ça, j'ai totalement abandonné. C'est pourquoi? Parce que je me suis résignée en fait. Je sais même pas quand c'est que je me. Quand c'est que. Je crois que c'est un processus inconscient qui s'est passé dans mon cerveau parce que je m'en suis rendu compte après coup que je m'étais résignée sur ça. Pardon. Je m'en suis rendu compte après coup et que je m'étais résignée sur les pourquoi que non, ben, j'arriverai jamais à trouver de réponse au pourquoi, que je ne trouverai pas de réponse au pourquoi, à tous les pourquoi, que c'était comme ça et je pense que ça accompagne le fait que je suis devenue pessimiste, quoi. Je suis devenue hyper pessimiste. Parce qu'avant, je me disais que si j'arrivais à comprendre les pourquoi, et que si j'arrivais à trouver des réponses, ce serait un peu des réponses miraculeuses au pourquoi, ben, si j'arrivais à répondre à ça, je me disais que je pourrais faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, et de changer la manière de d'être et tout, et la culture, quoi, pardon, la culture de. Global des gens dans nos sociétés, dans le monde, voilà. Je me disais, j'avais un peu la rêvasserie que si on arrivait à changer, qu'on pourrait arriver à arrêter et à ce qu'il n'y ait plus jamais de violence atroce comme ça, qui se répète de génération en génération, qui se transmet de génération en génération plutôt. Qui des guerres, des machins, des crimes contre l'humanité, tout ce genre de trucs. Mais je me disais que si qu'on arriverait à changer ça que par la culture, pardon, que par la culture, que en faisant en sorte que les gens ressentent les choses différemment, de manière intime, quoi, l'intérieur d'eux. Et que c'est parce que les gens ressentirait les choses différemment, globalement, parce que il y aurait des attitudes saines et des manières de percevoir les choses saines qui seraient généralisées pour tout le monde, quoi, que tout le monde aurait ça en eux. Pas. Et ben, je me disais que comme ça, si on changeait la culture globale, mais peut-être qu'on arriverait à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'atrocités dans le monde, aux différentes échelles, dans la famille, dans un groupe plus élargi, au niveau du pays, au niveau du monde. Je me disais ça. Mais ouais, mais maintenant, j'y crois plus du tout, quoi. Je me dis que il n'y a pas de réponse au pourquoi. À ce pourquoi-là, quoi, ces pourquoi-là. Je me dis que, bon, déjà, je suis même pas capable, je ne sais même pas vivre, moi. Je ne sais même pas comment je veux être, moi, au quotidien. Comment ressentir les choses moi-même. Je peux pas, je vais pas sauver le monde, quoi. Bon, on peut pas sauver le monde tout seul, hein. Puis ça n'existe pas de sauver le monde en soi. Puis les choses. Je suis tellement ignorante sur le monde et sur les. Déjà, même à une échelle plus petite de ma ville, de mon pays, etc., du pays dans lequel je vis. Je suis tellement ignorante des problèmes, de tous les problèmes qu'il y a, des gens autour de moi, comment eux ils vivent et les choses, ils ressentent les choses, que je me dis que je suis vraiment très mal placée pour pouvoir résoudre un des plus gros problèmes de plein de gens sur cette planète, quoi. Donc voilà, j'y crois plus trop. Je crois pas que il y aura une bonne fin à l'humanité ou que ça, les choses vont vraiment s'améliorer ou quoi que ce soit dans la longue durée. Bon, déjà vu comment c'est mal parti et que c'est la merde tous les jours. Enfin, à une échelle globale, je veux dire. Mais je sais plus quoi dire. Désolée, j'arrête pas de tousser. Ouais, j'en peux plus. Tout ça pour dire, j'ai abandonné les pourquoi. C'est un peu triste. Parce que vraiment, je me sens. Je les ai abandonnés comme ça sans m'en rendre compte. Mais du coup, je suis un peu triste, quoi. C'est un peu de la résignation. Et je me souviens quand j'étais plus jeune et au collège, lycée, il y a mon père qui pouvait dire des fois en blaguant, vaguement en blagadant, en blaguant mais vite fait quoi, que est-ce que être sage ça veut dire, enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'être sage ça veut dire être devenir résigné. Ou c'était pas exactement ça, j'arrive pas à le formuler comme il disait à l'époque, mais en gros, l'idée c'est qu'on deviendrait sage en devenant résigné aux choses. Et bon, je sais pas si je suis devenue sage du coup, je crois pas du tout. Je crois que je suis toujours aussi mature qu'avant, faut pas rêver. Non, mais ouais, du coup. J'ai jamais vu ça comme étant positif, se résigner, quoi. C'est un peu triste et comme abandonner les choses, quoi. C'est morne. C'est le contraire de l'espoir. C'est vraiment le désespoir. C'est accepter le désespoir. C'est triste. Et voilà, c'est triste et nul, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est pas le plus grave. Puis en soi, c'était pas tellement constructif non plus de se demander. Pourquoi comme ça, de cette manière-là? Enfin bref, je vais faire une pause avec de la musique. Parce que, ben, ça fait un petit moment que je parle. Je parle trop en ne sachant pas où je vais. Ça prend trop de temps. Enfin bref, on va mettre de la musique. La musique que je vais vous mettre, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est pas mal, moi, je trouve. J'aime bien ce genre de musique où il y a juste des sons et c'est assez prenant, t'es juste en train d'écouter. Enfin, bref. Tout de suite. De toute façon, après, ça devrait pas être trop long, je pense. J'espère que ça devrait pas être trop long. Jusqu'à la fin, je veux dire. Allez, à tout de suite. À plus. Alors voilà, c'était Just Brief de BDH, qui n'est pas mal du tout au niveau sonore, c'est pas mal. Je pense qu'avec les écouteurs, c'est encore mieux. C'est du bon son. Et donc, le truc, c'est que en préparant ce thème, les pourquoi et les comment, je m'en suis rendu compte que, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre type de pourquoi que j'avais pu me poser beaucoup aussi. C'était, je pense que c'était vers le collège, début collège, milieu collège, que je me suis beaucoup posé la question. En gros, je me posais la question de pourquoi j'existe. Vraiment, moi, j'étais allée, j'avais commencé à me poser la question avant les sujets de philo en première. Hein. Donc, à ce moment-là, je me demandais pourquoi j'existe. Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Est-ce qu'il y a une raison à la vie, genre? Est-ce que dans la vie, il y a des choses plus importantes que d'autres? Ou est-ce qu'il y a un but à la vie? Une raison d'être en soi? Et je réfléchissais à ça et j'arrivais pas à en trouver. Et ben, quand je me posais cette question et quand je la posais à mon père, et ben, mon père il m'a juste dit en fait, en retour, il me demandait juste pourquoi je voulais à tout prix avoir une vie prédéterminée, enfin, une raison prédéterminée à vivre, quoi. Pourquoi je devais avoir une justification au fait que je vive, quoi, que je sois là. Et en gros, ben, pourquoi je pouvais pas moi-même décider de pourquoi j'existais, de pourquoi je veux vivre, pourquoi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc. Que c'est ça en soi, d'être libre. Et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un destin ou quoi que ce soit, il y avait juste ben, la réalité des choses qui nous entourent. Et on arrive plus ou moins à percevoir de manière précise ce qui nous entoure, et ce qui, enfin, les gens, la nature, enfin les trucs physiques, quoi, concrets. Hein. Et ben, y a juste la réalité en soi, dans laquelle je vis, dans laquelle je suis. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi-même? Et qu'en soi, il suffisait juste que moi-même, je décide de ma raison d'être, en quoi. En gros, j'avais pas besoin que ce soit prédéterminé ou que ce soit quelque chose qui me dépasse ou que ça soit au-dessus de moi, quoi. Que je pouvais le faire mien, ma vie. C'était un peu ça qui me disait. Et il m'expliquait bah, que non, il n'y avait pas de raison d'être en soi, des raisons d'exister, que... Il n'y avait pas de raison au Big Bang, il n'y avait pas de raison ou à quoi que ce soit. Et que même si on prend une échelle, enfin que tout dépendait de l'échelle à laquelle tu regardes les choses en fait. Par exemple, à une échelle humaine, 100 ans, ça fait une vie très longue maintenant, parce que, enfin, surtout dans les pays occidentaux, hein, c'est dans n'importe quel pays qu'on peut être encore en vie jusqu'à 100 ans, quoi. Mais 100 ans, c'est un peu l'échelle humaine, quelque part. Parce que c'est la vie d'un être... Le temps, à peu près, la vie d'un être humain. Et puis, t'as l'échelle de 3 siècles, et t'as l'échelle de 5 siècles, et 10 siècles. Et à cette échelle-là, par exemple, dans 10 siècles, on va dire en 4000 années après Jésus-Christ... Si on prend notre mesure pour compter le temps qui passe, les années qui passent, ben, en 4000 après Jésus-Christ, sans doute que mon existence, personne n'en saurait rien. J'aurais juste disparu, je serais plus là. Et c'est pas grave en soi, c'est pas... qu'on se souvienne un peu de moi dans 10 ans ou... Donc, qu'on se souvienne pas du tout de moi dans 10 ans, c'est... On s'en fout. Enfin, après que je sois morte, en tout cas, ce que je veux dire. On s'en fout, en soi. c'est pas tellement important parce qu'on de toute façon on sera plus là. Enfin, moi je suis jamais une personne qui, enfin, je suis pas une personne qui considère que je veux avoir un rayonnement ou une influence après ma mort, quoi. Genre, c'est pas quelque chose du tout qui m'intéresse du tout. Je m'en fiche un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à différentes échelles, on peut être quelque chose d'important, une personne importante, quelque chose qui, une personne dont les gens ont conscience qu'elle existe et qu'il y a une place, entre guillemets, dans le monde, dans l'existence aussi des autres. Et puis, dans le long terme, j'aurai aucune importance en soi. Mais le truc, c'est que c'est pas le plus important d'avoir une existence aux yeux des autres ou aux yeux de gens dans 10 siècles. Le plus important, c'est que notre vie nous appartienne, quoi, qu'on soit actif et dans notre vie et vivant dans notre vie, vivant dans notre corps, vivant dans notre esprit. Enfin, c'est un peu ça que je me dis. Enfin, ça, c'est ce que je me dis aujourd'hui. J'ai l'impression de tout mélanger, c'est une horreur. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que n'y a pas besoin d'avoir une raison d'être ou un sens de la vie. Il n'y a pas de sens de la vie en soi. Il n'y a pas de raison à vivre toute puissante, enfin qui soit naturelle, quoi, qui soit là. C'est pas quelque chose qu'on peut déterminer. Et c'est pas grave parce que en soi, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de nous-mêmes. Et en même temps, il faut savoir ce qu'on veut faire de nous-mêmes. Donc là, c'est tout mon problème. Un gros problème pour moi, qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Ça fait pas des siècles, mais ça fait un petit moment que j'arrive pas à en faire quoi que ce soit de cette question. Mais je pense que c'est à ce moment-là, c'est avec ces discussions avec mon père à propos de ces sujets-là, et au bout de quelques années, ça a commencé à s'inscrire un peu mieux dans mon cerveau, et à ce que ben, finalement je me pose plus la question de pourquoi, le sens de la vie, etc. Parce que j'ai accepté quelque part que il n'y a pas de sens de la vie en soi, comme ça qui tombe du ciel. Mais voilà. Et ça me fait penser aussi que, enfin, c'est un peu décousu ce que je dis, mais ce pourquoi-là, pourquoi le sens de la vie, ça me fait penser à quand j'étais encore à mes enfants. Quand j'avais entre mes 8 ans et mes 7 ans, 8 ans et 9 ans, par là. Et quand j'étais en maison d'enfant, à un moment donné, j'étais allée en vacances chez ma mère. C'était des vacances un peu chaotiques. J'avais pas vraiment bien vécu. Parce que déjà, elle me prenait jamais et ça faisait un bon moment que je l'avais pas vue, ma mère. Mais on est allé en camping et tout, on a fait. Enfin, c'était pas. Après coup, j'ai découvert que c'était pas prévu, qu'elle avait pas le droit de ma mère de me prendre de. Normalement, elle était censée rester proche de la maison d'enfant, et alors qu'elle en a rien à foutre de ce que disaient les éducateurs, et elle a juste décidé de faire les choses à sa sauce et de se barrer. Enfin, en gros, on allait vers un oui, un. On allait dans un camping proche de Bordeaux parce que pour que son mari Nicolas puisse trouver du boulot, chercher du boulot. Et bon. Enfin bref. J'ai l'impression de tout mélanger, mais j'ai l'impression de mélanger plusieurs vacances. C'est horrible, ma notion de temps et de mes souvenirs. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça en fait. Désolée. J'ai l'impression. Non, en fait, c'était pas ça, c'était pas la maison d'enfant. C'est un autre truc. C'était des vacances chez ma mère, toujours. Mais quand elle habitait en périphérie parisienne, je sais plus où, enfin voilà. Et on était allé dans un parc. Ouais, enfin bref, je ne sais plus lequel des deux c'était. On va abandonner de savoir. Je crois que c'était le camping. Ah, c'est une horreur. Donc, on était au camping, voilà, machin. Et on est allé dans un parc, pas trop loin, et je crois. Et il y a ma mère qui m'avait demandé, mais est-ce que tu, avec sa voix gentille insupportable, mais Angelina, est-ce que tu crois en Dieu et tout? Et moi, et comme c'était quelque chose que ma mère avait cherché à me transmettre, entre guillemets, quand j'étais chez elle à Saint-Louis-sur-Isère, avec elle à Saint-Louis-sur-Isère, donc on m'avait raconté un peu l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de Bouddha. C'était pas de la pratique religieuse en soi, c'était juste des histoires et un vague, une vague manière, une vague transmission de comment délirer. Grosso modo, je vais pas te rentrer dans les détails, mais c'était pas ce qu'on appelle être croyant, quoi. Ou avoir pratiqué une croyance, pratiqué une religion. Du tout, ça avait rien à voir. Et du coup, elle m'a demandé, ma mère, à ce moment-là, je dois avoir 8 ans, 9 ans, par là, je crois. Elle m'a demandé, est-ce que tu crois en Dieu et tout? Et moi, je lui ai dit, ben non, je crois pas en Dieu, parce que j'ai totalement. Je me suis retrouvée en maison d'enfant, j'ai totalement abandonné lié à la question de Dieu, de ou d'éliminer quel que soit, j'en avais rien à foutre. Enfin, comme j'en ai toujours rien à foutre, donc voilà. En vérité. Donc, je dis, ben non, je crois pas en Dieu. Et elle m'a dit, mais comment tu peux pas croire en Dieu? Il y a tellement de choses inexplicables dans la vie. Comment, pourquoi on existe? Pourquoi l'univers existe et tout? Et il suffit de croire qu'il y a quelque chose de. En Dieu, qu'il y a un Dieu ou qu'il y a une divinité ou des divinités pour que la question soit résolue en fait. Pour qu'il n'y ait plus à se poser la question de pourquoi on existe et pourquoi le monde existe, etc. Et c'est. Quelque part, ce qu'elle veut dire, c'est que c'était soulageant de ne pas avoir à se poser la question. Enfin, de se dire que ben, y a quelque chose suprême qui fait que ben, on existe. Et elle a jamais. Et pour elle, c'était la même chose que tu crois en Jésus, en Dieu, au Dieu chrétien, ou que tu sois musulman, ou que tu sois n'importe quelle religion, hindouiste, n'importe quelle religion, pour elle c'était la même chose, c'était le principe qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, qui faisait qu'on existe, et que du coup, ben, on n'avait plus à se poser la question de pourquoi on existe. À ce moment-là, quand ma mère m'a expliqué ça et m'a demandé et m'insistait, tu vois, un peu, vous voyez, pour me dire, ben, bah, tu crois vraiment pas? Non? Non, c'était un peu désagréable parce que il y avait toujours ce côté où elle s'intéressait pas à moi, à mon identité en tant que telle, à ce qui m'intéressait à moi, à ce qui m'intéressait dans la vie, quoi. Et après, elle cherchait à m'imposer, plus ou moins. Ses croyances, ses manières de voir le monde, c'est ce qu'elle aime, ce qu'elle lui, ce qu'elle l'intéressait et tout. Et ça, c'était assez gênant. Et je me sentais pas tellement reconnue en tant que personne, un être humain à part. Mais oui, je pense que honnêtement, je pense qu'il y a certaines personnes qui, enfin, finalement le constat de base, il est un peu le même, de pas savoir pourquoi on existe, enfin pourquoi j'existe, pourquoi je suis en vie, pourquoi l'univers existe, pourquoi il y a des êtres humains qui sont capables de penser. Waouh, c'est un hasard de la biologie, mais pourquoi, mais comment est-ce possible? Enfin parce que vraiment, si on prend les choses en se disant avec la science de manière scientifique, ben on peut se dire le Big Bang c'est un hasard, enfin. Il y a tellement de choses qui sont un peu du hasard qui auraient pu ne jamais arriver. Donc on se demande où les choses finissent, où les choses commencent. Enfin, tout ça, on a du mal à le rationaliser avec notre esprit humain et même avec la science d'aujourd'hui contemporaine. On n'arrive pas, on nous manque beaucoup de réponses à beaucoup de pourquoi en soi existentiel. Et de la métaphysique aussi, c'est métaphysique et existentiel, ça se relie. Mais en même temps, c'est pas le plus grave, quoi. Je comprends qu'il y a des personnes qui puissent être croyants et croire en un dieu ou un autre ou en plusieurs divinités pour ces raisons-là. Mais j'ai l'impression que des fois que c'est un peu triste de croire au destin et de croire qu'on a une place prédéterminée dans le monde ou un chemin prédéterminé. Enfin, je pense qu'il y a différentes personnes, différentes manières de croire et différentes manières d'être croyant, sans doute. Donc je veux pas trop m'avancer parce que je pense qu'il y a tellement de personnes différentes qui doivent le vivre de différemment que je peux pas me permettre de juger quoi que ce soit. Mais la manière dont je ressens les choses, c'est que je me dis, c'est un peu triste de d'abandonner quelque part. Notre liberté d'être quelque part. Parce que. Ou de prétendre, de faire comme si on perdait notre liberté d'être, puis au final, pour au final justifier les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, la manière dont on est au quotidien, en disant que c'était voulu par Dieu. Enfin, d'un côté, c'est un peu triste, quoi. D'abandonner quelque part notre responsabilité de qui on est et de notre place dans le monde, etc. Il y a quelque chose de ça. Mais d'un autre côté, suivant qui on est concrètement, ça peut devenir très gênant. Par exemple, si t'es quelqu'un, je sais pas, imaginez un truc, mais si tu fais de la. Tu tortures les gens ou si t'es juste un psychopathe. Enfin, non, ça c'est mauvais exemple. Non, mais si tu tortures des gens par exemple, et tu te dis, c'est parce que ces gens l'ont mérité, c'est parce que. Et Dieu l'a voulu, c'est qu'une. Je suis que en train de faire une punition que Dieu veut, donc c'est bon. C'est gênant. Peut-être que ces personnes sont les qui torturent sont vraiment des monstres ou des personnes qui sont horribles, etc. Peut-être que c'est des personnes innocentes ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, devoir justifier ça parce que il y a quelque chose de surnaturel au-dessus de nous qui serait censé contrôler tout, mais en même temps contrôle pas grand-chose. Hein. Et justifier ça comme ça. Je trouve ça très gênant et très problématique, quoi. Mais c'est comme les croisades, hein, en soi, justifier d'aller piller des gens et de piller les ressources d'un peuple ou d'une société, d'une ville, très loin de chez nous, quoi, en justifiant ça. En justifiant ça, soi-disant. Pour une question de religion, pour une question religieuse, c'est de la connerie. Hein. C'est juste justifier d'être un connard et de faire des choses de con et nul et voilà quoi. Et voilà quoi. C'est là où c'est à ce moment-là que la religion devient une idéologie. Et devient quelque chose qui peut être nocif, quoi. Quand ça devient un prétexte pour contrôler, pour chercher à con pour contrôler les gens, pour empêcher les gens de faire d'être librement eux-mêmes, ou quand ça devient un prétexte pour être violent envers d'autres personnes, etc. Là, on peut parler de religion en tant qu'idéologie et en tant que. Et dire que c'est nocif, quoi, pour les gens. Enfin bref, je sais pas trop, je me suis un peu perdue encore. Mais tout ça pour dire que. Du coup, j'ai. Le pourquoi existentiel, j'ai fini par accepter à intégrer entre guillemets la réponse des réponses que qu'a pu m'apporter mon père plusieurs fois, quoi, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Et j'ai fini par le faire mien, donc ça va. Mais pourquoi existentiel, ça va? C'est... Il y a toujours un gros vide laissé en mode bon, on en fait quoi maintenant? Mais ça va. Et bref. Enfin bref, tout ça pour dire, on va arriver à la conclusion, la pseudo-conclusion plutôt, on va dire, c'est que avant, je me posais beaucoup de pourquoi, assez souvent, et ça me posait problème de ne pas avoir de réponse au pourquoi. Et je me disais que c'est que en sachant pourquoi que je pourrais être en paix. Mais maintenant, j'ai abandonné l'idée que je puisse répondre à ces pourquoi. Vraiment, j'ai totalement abandonné. J'y crois plus. Et je suis un peu... C'est un peu décevant. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être ça, passer autre chose. Enfin, je sais pas. Mais maintenant, je suis au commun. Maintenant, je me demande comment vivre. Comment être? Comment faire des choses intéressantes dans la vie? Et du coup, au lieu d'être dans le passé, entre guillemets, en disant ben, pourquoi ces violences, pourquoi... Et souvent, c'est des trucs dans le passé, finalement. C'est aussi des trucs dans le présent, parce que c'est des violences qui continuent dans le présent, et des violences qui se répètent, qui se reproduisent d'une manière ou d'une autre dans le présent. Mais souvent, c'est un peu ancré dans le passé, quoi. Et je suis passée aux communs qui sont ancrés dans le futur proche, futur lointain, on va dire. Donc je ne suis toujours pas dans le présent, mais c'est la prochaine étape, je sais pas. Enfin bref, là je blablate pour rien, c'est pas très sincère en soi. Mais oui, maintenant je me demande comment être, quoi, comment vivre. Comment ne pas péter un câble quand t'es stressé et que les gens te font chier? Non, mais je... Ouais. Comment apprécier sa solitude? Comment apprécier son temps libre et comment faire quelque chose de son temps libre? Ouais. Beaucoup d'autres questions pour le coup qui sont un peu plus concrètes quelque part, un peu moins métaphysiques, un peu plus pertinentes peut-être, vu ma situation, vu là où j'en suis. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Mais ouais. Les pourquoi, c'était quelque chose auquel je donnais une certaine importance pendant des longues années de ma vie. Vraiment très longtemps, ça a duré longtemps. Et qui s'est. Ben, ça s'est terminé il y a 1 ou 2 mois, je sais même pas. Et voilà. C'est bizarre. Il y a des choses auxquelles on donne de l'importance pendant une certaine partie de notre vie. Puis à un moment donné, sans qu'on l'ait décidé, ça devient plus important. Ça devient quelque chose auquel on ne veut plus donner d'importance ou de la place. Et qu'on abandonne juste. Et finalement, ça en devient presque ridicule, quoi. Mais en même temps, quand tu prends un enfant, beaucoup d'enfants de 3 à l'âge de 3 ans, par exemple, surtout. Puis ça dure, hein, au moins jusqu'à 10 ans, je pense. Il y a une période où les enfants, ils apprennent à parler, etc. Et puis ils apprennent à penser, à être conscients des choses. Ils apprennent tout un tas de choses s'ils sont bien entourés. C'est une condition essentielle. Et ils posent plein de pourquoi. En mode, pourquoi il fait ça, le machin? Pourquoi la fourmi, elle est comme ça? Pourquoi? Ils peuvent, s'ils sont un peu, un minimum bien dans leur basket parce qu'ils sont bien entourés, les adultes s'occupent bien d'eux, ils vont poser plein de pourquoi et des pourquoi auxquels les adultes ne savent pas répondre. Enfin, il y a des pourquoi auxquels les adultes peuvent répondre, il y a des pourquoi auxquels les adultes ne peuvent pas répondre. Et du coup, des fois, ils essaient de trouver une réponse plus ou moins. Des fois, ils leur disent, ben, je sais pas. Enfin bref, c'est compliqué à répondre à des pourquoi, au pourquoi. Je pense que c'est un vrai défi dans ma vie, ce serait de répondre à tous les pourquoi d'un gosse de 3 ans qui est en forme. 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Je pense que c'est un bon défi, franchement. Si quelqu'un veut le relever, je serais intéressée. Non, je rigole. Mais d'un côté, les pourquoi, c'est quelque chose de hyper vivant. Ça peut être hyper vivant, hyper stimulant, entre guillemets, et important. Et ça peut constituer une fondation, entre guillemets, pour le reste. Les réponses au pourquoi. Mais en même temps. Mais en même temps. Je sais pas quoi dire. En même temps, les pourquoi que je me posais n'étaient peut-être pas exactement comme les pourquoi d'un enfant de 3 ans. Non, mais je sais pas. Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, c'était l'épisode des sur le pourquoi, sur les pourquoi. Vous voyez, les pourquoi entre guillemets. Et les comment. Les comment, ça commence à peine dans ma tête, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai abordé deux, trois trucs. Je me suis perdue beaucoup dans des détails qui pas forcément le plus pertinent dans cet épisode, mais j'imagine que c'est pas très grave en soi. Et voilà, ça va être la fin de cet épisode. Pour finir cet épisode, j'ai envie de remettre la musique du début, mais de la laisser jusqu'à la fin. Et voilà. Et puis ce sera fini, finito, terminado. Voilà, jusqu'au prochain épisode. Et je sais pas encore quel thème je vais choisir parce que je les ai trop à choisir les thèmes. J'hésite trop à choisir pour quoi que ce soit. C'est une horreur. Mais enfin bref. Je vais même mettre la musique. Comme ça, ce sera mieux que de m'entendre parler de rien. Sans doute. Let's go. Bonne écoute.
Regarde-moi, putain, c'est ce que tu voulais, non? Bah voilà, ça c'est moi. C'est pas très beau quand on enlève le masque. Surtout dans ce monde où tout est lissé et soi-disant parfait, alors qu'on vit littéralement dans un bordel inhumain. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'essaie de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre, mais ça sonne faux. Je rentre pas dans le moule, c'est tout. Alors bah les masques, et rien à foutre de ce que tu peux dire, parce que maintenant je vis pour de vrai. J'ai ce cœur de cristal dans ma poitrine qui bat la chamade. J'ai cette gueule cassée qui essaie de sourire pour cacher sa tristesse. Et j'ai cette âme brisée qui fait son mieux pour vivre avec ses traumas. Alors oui, ça c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et je vais pas recommencer à faire semblant que tout est beau, non? Dans mon univers. Dans mon univers, parce que oui, qu'est-ce que tu crois, moi aussi, c'est bordel dans ma tête, j'ai ma vie, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance. Le cœur à vif. Alors oui, ça c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, et j'ai pas recommencé à faire semblant que tout est beau, non. Dans mon univers, dans mon univers, parce que oui, qu'est-ce que tu crois, moi aussi, c'est bordel dans ma tête, j'ai ma vie, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance. Le cœur à vif. Le cœur à vif. Et c'est pas facile tout le temps parce que je suis de ceux qui ressentent le monde dans chaque coin de leur corps. J'ai déjà ce qui se passe dans ta tête avant même que tu me l'aies dit. Quand t'es triste, je le suis aussi. Quand t'es en colère, c'est la tempête dans mon cœur. Je suis une éponge à émotion et je commence sérieusement à fatiguer parce que ce monde est trop malade. Alors je me sens écrasé sous le poids de ma propre existence, comme si mes ombres se reflétaient de partout. Pourtant, j'ai tout au fond de moi l'urgence d'exister. Je vais tant bien que mal de répandre un peu de lumière. Celle du cœur qui murmure ce que la tête peut pas comprendre. Comme si malgré tout il restait une lueur d'espoir qui me faisait avancer. Et je suis convaincu que j'arriverai un jour à m'endormir sous cette pression dans ma poitrine et à retrouver l'envie de sourire. Mais pour l'instant, j'avance dans l'obscurité de mes failles. Et je peux rien faire de plus que dire que je crois en toi et que je t'aime. Alors oui, ça c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et je vais pas recommencer à faire semblant que tout est beau, non. Dans mon univers, dans mon univers. Parce que oui, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, c'est le bordel dans ma tête, j'ai ma vie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance.